Les enjeux internationaux, Xavier Martinet.
Et oui, des élections le 10 décembre en Libye, c'est l'accord obtenu par le président français Macron mercredi à Paris. Quelles sont ses chances dans une Libye en guerre? Bonjour Patrick Hemzadeh.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, ancien diplomate à Tripoli 2001-2004, auteur de La Libye de Kadhafi en 2011. Alors l'enjeu est immense, après 8 ans de conflit à la fin de l'année, la Libye pourrait retrouver un processus politique et voir les armes se taire. Un premier accord parrainé par l'ONU avait été signé en 2015, alors que le pays était sous pression de l'OI, mais depuis, c'est la guerre des légitimités. Cette fois, a dit le président Macron, on est sorti d'un blocage collectif, paralysant, nourri par les divisions intralibyennes, divisions régionales de la communauté internationale. Il pousse depuis son élection pour un règlement rapide, première rencontre en juillet dernier, mais en recherchant le consensus maximal le plus rapidement, la France risque peut-être de court-circuiter le processus ONU, et puis reste à convaincre l'acteur essentiel mis en avant mais absent, bien sûr, le peuple libyen. Alors, qui écrira l'histoire libyenne? Patrick M. Zadeh, à l'époque, en juillet 2017, vous n'étiez pas convaincu, mais cette fois, il faut reconnaître que le président Macron a réussi à réunir des représentants d'une vingtaine de pays, l'ONU, l'Union africaine, la Ligue arabe, l'Est et l'Ouest, et quatre acteurs politiques de premier plan quand même.
Oui, alors effectivement, il a réuni quatre acteurs qui sont, encore une fois, assez controversés en interne. Il faut rappeler que les quatre n'ont pas vraiment de légitimité. Le général Maréchal Haftar a la légitimité des armes qu'il a bien voulu prendre, avec le soutien de pays comme l'Égypte et les Émirats, et aussi la France d'ailleurs, militairement. Le président Faïd Sarraj est aussi extrêmement contesté à l'Ouest. Le président du Parlement, Aguila Saleh, est déjà en fin de mandat depuis 2 ans quasiment, et donc a prolongé son mandat. Et le nouveau chef du Haut Conseil d'État, qui est une instance consultative, vient de prendre ses fonctions. Et là aussi, bon, c'est pas quelqu'un qui a une base sociale très forte en interne. Mmh. Donc je pense qu'effectivement, il faut se garder de tout triomphalisme, comme on a pu le voir un petit peu mardi, et revenir aux fondamentaux, à savoir la feuille de route des Nations Unies. Je pense que c'est la seule institution qui, pour l'instant, a à la fois la légitimité et la légalité pour agir en Libye. Donc, M. Hassan Salamé, l'envoyé spécial des Nations Unies, a présenté une feuille de route en septembre. Il a représenté l'état d'avancement de sa feuille de route il y a pas moins de 15 jours au Conseil de sécurité. Donc, je rappelle, la France est membre permanente, elle a assisté à ce discours. Et moins de 10 jours après, on apprend effectivement que la France lance une initiative qui vise à fixer des dates aux élections, parce que finalement c'est la seule, bon, hormis le fait que les quatre personnes précitées se sont assises autour d'une table, alors elles s'étaient déjà assises deux à deux ou mutuellement, mais jamais effectivement toutes les quatre, elles n'ont rien signé. Je rappelle, c'est un engagement, une déclaration de principe. Et là, le président Macron a effectivement un petit peu mis la pression pour avoir des dates. Alors, vous avez parlé de processus. Là aussi, non, on a des dates, mais pour l'instant, on ne sait pas comment on va y arriver.
On a le 20 septembre comme première échéance.
On a le 16 septembre comme échéance pour avoir un texte constitutionnel sur lequel, effectivement, on pourrait se baser pour organiser des élections. Alors, quelle élection? Pour l'instant, on a dit que c'était présidentiel et législative en même temps, mais il n'y a pas de consensus en Libye sur ce domaine. Ça ouvre effectivement beaucoup de débats. Il y a eu un projet de constitution qui a été présenté par un conseil constitutionnel, qui est une instance élue, qui lui-même est divisé. Le texte, en l'état, est rejeté par une majorité de gens en Libye. Donc, on n'a pas pour l'instant de projet, effectivement, oui, sur ce texte constitutionnel.
Il y a trois options, d'ailleurs, qui ont été envisagées par Hassan Salamé concernant cette validation constitutionnelle des élections. On ne va pas entrer dans le détail, mais sur, disons, la qualité de l'accord et sa légitimité, vous avez souligné qu'il n'y avait pas eu signature. Emmanuel Macron a, lui, beaucoup insisté pour dire que cette fois-ci, c'était vraiment un accord unanime, que le fait que beaucoup de pays soient témoins suffisait à entériner sa légitimité. Qu'est-ce qui change vraiment par rapport à cet accord de Sriraat de 2015, finalement, si ce n'est ce calendrier des élections qui peut être perçu un peu comme un ultimatum?
Non, mais il y a énormément de choses qui sont différentes. D'abord, Sriraat, c'est un accord qui a été validé par le Conseil de sécurité, donc avec une pluralité d'acteurs, alors certes, qui n'étaient pas suffisamment représentatifs, ce qui fait que cet accord n'a pas fonctionné. Et je l'avais dit à l'époque, donc on a bien vu ce que ça donnait. 3 ans après, il ne fonctionne pas. Là, on a pour l'instant une initiative française avec une présence, comme vous dites, une présence de représentants internationaux. Mais il faut voir à quel niveau. Hein, on n'avait pas de chef d'État. On avait porté, je crois qu'il y avait deux ou trois chefs d'État africains. Sinon, les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Italie étaient représentés au niveau d'ambassadeurs. Donc c'est pas non plus un soutien et un accord international. La deuxième chose, je l'ai dit au début sur le plan de route de Hassan Salamé, il était prévu aussi une conférence du dialogue national. Hein, il en a parlé longuement dans son discours d'il y a 15 jours. C'est un processus totalement original en Libye, puisque c'est un processus qui, pour une fois, part du bas. Au lieu des processus par le haut, imposés souvent dans des réunions à l'étranger, hors sol, qui sont rejetés par une majorité de Libyens, hein, qui ne veulent plus ce type de processus. C'était l'exemple type de Srelat qui a été signé au Maroc. Hassan Salamé est parti d'un constat qui colle effectivement à la culture politique libyenne, où le local prédomine et où on a une fragmentation extrêmement affirmée, extrêmement importante de la société. Donc en fait, il a mené des consultations, pour l'instant dans une quarantaine de villes du pays, mais il y en aura d'autres jusqu'à fin juin, sur un certain nombre de questions essentielles sur l'avenir et justement la sortie de la phase de transition. La constitution, l'intégration des milices, la réunification des institutions militaires et sécuritaires, l'organisation du référendum. Donc si vous voulez, là on part d'un processus qui part du bas vers le haut, et là toutes les composantes du peuple libyen sont consultées, les anciens kadhafistes, les amazirs qui pour la première fois s'investissent dans un processus alors qu'ils ont toujours refusé depuis 2011 de participer, les jeunes, les femmes, etc., un grand nombre de composantes. Et donc, fort de cette, je dirais, de ces recommandations populaires, hein, avec une souveraineté, une légitimité populaire, Hassan Salamé voudrait porter ça au Conseil mi-juillet pour essayer d'obtenir effectivement là un soutien du Conseil de sécurité pour revenir vers ces quatre grands acteurs qu'on a vus tout à l'heure, hein, qui pour l'instant bloquent tout. Depuis plusieurs mois, pour effectivement casser un petit peu le statu quo et aller de l'avant.
Et alors là, ces quatre grands acteurs étaient présents lors de ces réunions de Paris. La superstructure, on pourrait dire, Ouest et Est, qui étaient réunis. Dans les présents, il y avait aussi les milices de Zenten qui contrôlent, dit-on, les champs de pétrole de l'Ouest. Mais dans les grands absents, il y avait ces milices de Misrata et de Sirte, les brigades de défense de Benghazi et l'ensemble de ces groupes composites que vous avez évoqués, Amazir, Touareg.
Oui, alors je vous reprends un petit peu. Non, il n'y avait aucun groupe armé qui était représenté à la Réunion de Paris. Mais il n'y a pas que, si vous voulez, il y a aussi les maires, les acteurs locaux. C'est des gens qui n'ont pas été représentés, alors que le pouvoir local en Libye est vraiment la seule institution encore légitime et la seule institution qui fournit, je dirais, des services publics et qui constitue une continuité, je dirais, des institutions encore après la chute du régime de Kadhafi. Donc il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas représentés, ce qui fait dire à beaucoup de Libyens qu'effectivement, cette Réunion de Paris, c'était encore une fois un grand show à l'étranger, mais qui sont sceptiques sur les résultats. Alors, ce qui ne veut pas dire que les gens en Libye ne veulent pas d'élections. Hein. Bien sûr, les élections...
Parce qu'il y a eu des sondages de Hassan Salamé et du Centre d'études maghrébines.
Oui, il y a eu des...
Enfin, des sondages.
Oui, il y a eu des sondages. Alors, ça vaut ce que ça vaut effectivement en Libye, comme encore une fois, comme je l'ai dit, dans une société très fragmentée, comment voulez-vous construire un échantillon représentatif? Bon, c'est extrêmement difficile. Donc, oui, moi, c'est ce que je ressors de mes entretiens et mes séjours en Libye, c'est qu'il y a effectivement les gens veulent sortir de la phase de transition, mais pas n'importe comment. Faut rappeler qu'il y a déjà eu deux élections en Libye. Donc, si vous voulez, les élections, c'est pas la baguette magique comme on le voit souvent en Occident où on dit on organise des élections, donc on passe à la démocratie. Dans un pays fragmenté, des élections peuvent conduire à davantage de fragmentation. Donc ça peut encore accroître les lignes de fracture. Et on voit bien que la ligne de fracture Est-Ouest aujourd'hui, elle découle quasiment directement des élections de 2014 qui sont intervenues dans un contexte de guerre civile et de fragmentation. C'était juste après l'offensive menée par le maréchal Haftar. Donc voilà, j'attire l'attention sur le fait, alors à plus forte raison des élections présidentielles, effectivement, on peut imaginer que si un des quatre, ou deux des quatre, ou trois des quatre qui étaient présents à Paris se présentent, malgré les belles promesses, il ne sera pas accepté si jamais il venait à remporter des élections. On voit mal le maréchal Haftar accepté par les milices de l'Ouest, puisque c'est tout ce qu'elles rejettent, le retour d'un militaire. Et ça, il y a aussi un consensus dans la société libyenne. Une grande majorité de Libyens ne veulent pas d'un retour d'un militaire au pouvoir sur le modèle égyptien, par exemple. S'ils ont déjà eu 42 ans de colonel Kadhafi, c'est pas pour revenir à un officier qui est en plus âgé que Kadhafi. Je rappelle que le maréchal Haftar a deux ans de plus que n'aurait le colonel Kadhafi s'il était encore vivant.
Et encore une fois, ça vaut ce que ça vaut, mais je crois 12,5% d'intention de vote au cas où il se présenterait à cette hypothétique présidentielle selon le centre maghrébin d'études sur la Libye. Et si on revient à cette problématique de qui écrit l'histoire libyenne, en tout cas ce qu'on voit sur le terrain, et c'est très net depuis le 7 mai dernier, c'est que c'est l'armée nationale libyenne, l'armée du général Haftar, qui est en train de réécrire la partie militaire, en tout cas dans l'Est, et de gagner cet Est libyen, de s'imposer.
Oui, alors effectivement, il a gagné, entre guillemets, la bataille de Benghazi à un prix très très lourd. Il y a plus de 30 000 personnes qui sont déplacées, qui ont dû quitter leur maison, donc c'est pas encore terminé. Et puis en ce moment, il y a, et là on n'en a pas parlé à Paris, et j'insiste, c'est important d'en parler, c'est qu'il y a une crise humanitaire qui est en train de se préparer autour de la ville de Derna, qui est assiégée par l'armée nationale libyenne du maréchal Haftar. Il y a eu une protestation la semaine dernière devant le siège des Nations Unies par un certain nombre de citoyens qui appellent l'ONU à réagir. Hassan Salamé en a parlé. Le premier quart de son discours il y a 15 jours aux Nations Unies, c'était consacré à la crise humanitaire de Derna. Et effectivement, à Paris, je pense qu'on n'a pas voulu fâcher un certain nombre de personnes et cette crise, ou en tout cas cette situation, n'a absolument pas été abordée ni mise en avant.
Eh bien, merci beaucoup Patrick Hamzadeh, on suivra ça à lundi pour une autre guerre commerciale, bien sûr.